RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Allez, c'est parti pour les grandes gueules. Bonjour à tous, bienvenue. Venez débattre avec vos GG jusqu'à midi au 32-16 sur RMC la radio, RMC Story à la télé. Vos grandes gueules aujourd'hui, ce sont tout d'abord Jérôme Marty, le docteur. Bonjour Jérôme.
Salut à tous.
Maître Sandrine Pégan. Bonjour Sandrine.
Ah, j'adore quand vous m'appelez maître. Bonjour à tous.
Tu es avocate.
Oui, non, mais bon, en général, on ne présente pas, c'est bien.
Et puis Maître Consigny, parce que nous avons deux avocats aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Bonjour Maître Consigny.
Bonjour à tous.
Tiens, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est vendredi 13 et ça va vous porter chance. On a de l'argent et beaucoup d'argent à vous faire gagner avec la roue RMC jusqu'à 30 000 euros. C'est jour de chance, hein, vendredi 13. C'est très simple, on vous le dit depuis le début de la semaine. Vous pouvez gagner 30 000 euros cash net d'impôts aujourd'hui. Pour jouer, vous envoyez 13 au 7 32 16. 13 au 7 32 16. Vous aurez 10 minutes pour jouer. Et ensuite, on va tourner la roue tout à l'heure vers 11h20. Il y aura donc un gagnant. Vous partez avec 1000 euros, quoi qu'il arrive, à 11h20. Mais vous pouvez multiplier ces 1000 euros par 2, par 3, par 5, par 13. Et il y a même une case mystère. Donc on peut gagner jusqu'à 30 000 euros. Donc inscrivez-vous dès maintenant. Et on joue ensemble tout à l'heure à 11h20. Pour démarrer ces GG ensemble, je vous propose de parler d'un certain Bruno Retailleau qui se lance dans la course à l'Elysée.
Comment il va départager le meilleur ?
On verra. Je trace ma route. Écoutez, moi, j'ai lancé un groupe de travail avec Gérard Larcher. Ils sont en train d'étudier cette question. Écoutez, moi, je suis candidat, je me plierai aux règles. Vous savez, se déclarer à l'élection présidentielle, je ne le fais pas par envie. Je le fais d'abord, je vous l'ai dit, par sens du devoir. Je le fais pour eux.
Il est candidat par sens du devoir, il l'a dit hier sur le plateau de TF1. Avant cela, il avait publié une vidéo à 18h, le patron des Républicains qui annonce donc sa candidature. Il veut être le défenseur de nos coutumes, de notre mode de vie, de notre culture, de notre civilisation. Il se présente comme un candidat de droite, il veut un référendum sur l'immigration, il veut rétablir l'ordre. Il a même dit une chose, et ça va plaire à Charles Consigny, il faudra tronçonner. Dès mon arrivée à l'Élysée, je relancerai la réforme des retraites et je réduirai le nombre de fonctionnaires aux alentours de 250 000 fonctionnaires en moins. Est-ce que ce candidat Retailleau a ses chances pour 2027? Le 32-16 pour intervenir. Charles, tiens.
Je constate que un certain bruit médiatique enterre déjà cette candidature qui ne correspond pas aux souhaits de certains éditorialistes boboisés qui se cherchent un nouveau centriste inconsistant et scintillant à soutenir pour la prochaine présidentielle. Donc déjà, moi, par le contraste, si vous voulez, le mauvais accueil qui est réservé à cette candidature m'intéresse. Et je pense que le jeune Retailleau fait preuve d'une certaine radicalité programmatique qui, là aussi, est intéressante. Il n'est pas dans le « en même temps », il n'est pas dans ce truc bidon qui est le dépassement des clivages. Il affirme clairement ce qu'il veut faire. Et donc, je trouve que c'est pas inintéressant dans
mais
le spectre politique actuel.
Mais tu trouves qu'on juge un peu de haut cette candidature dans les médias, c'est ça ?
J'ai le sentiment que parce qu'il est vendéen, catholique, qu'il a pas le charisme de Barack Obama, effectivement, oui, on juge ça de manière circonspecte. Et
moins flamboyant qu'Emmanuel Macron, par exemple.
Oui, mais on a vu le résultat. Moi, je pense que les Français en ont assez des danseurs de claquettes et que ce qui plaît aux ayatollahs du commentaire médiatique et qui prétendent faire et défaire les candidatures n'est pas forcément ce qui plaît aux Français. Donc moi, en tout cas, je ne regarde pas cette candidature avec sarcasme et je pense qu'il y a une certaine radicalité sur le fond qui est intéressante.
Jérôme Marty, Retailleau 2027, tu y crois ?
Non, clairement non.
Ah oui ?
Mais non, mais... Moi, ce qui me déplaît là-dedans, c'est que c'est très paradoxal de dire je le fais pas pour moi, je le fais pour la France. Parce qu'à ce moment-là, il y a d'autres candidats Il y a Vauquiez, il y a Lisnard, il y a lui qui aura à peu près, qui épouse à peu près les mêmes idées.
Oui, mais lui, il est patron de son parti.
Oui, mais je veux dire, la date de l'élection présidentielle est connue.
C'est dans 14 mois.
C'est dans 14 mois. Donc, tu fais ça, tu t'entends d'abord et puis tu te débrouilles pour qu'enfin, il y ait un seul candidat, quoi. Je veux dire, il faut les choses à l'envers tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire là, c'était l'espèce de course à qui va se déclarer en premier, qui va perdre, quoi. Et qui va perdre?
Ils ne seront pas tous candidats à la fin, de toute façon.
Non, mais on est sur un nuage d'idées qui est globalement à peu près le même entre le jeune Bardella, comme dirait Charles, Retailleau, Vauquiez.
C'est pas les mêmes idées sur l'économie, par exemple.
Non, mais d'accord, mais dans le nuage, si tu veux, d'idées, il y a quand même, il y a plus d'idées qui les rassemblent que d'idées qui les divisent. Donc ça veut dire qu'on a 5, 6, 7, 8 candidats qui partagent les mêmes idées et qui nous disent « je le fais pour la France ». Non ! Si tu le fais pour la France, tu t'entends en amont et
mais
puis tu vas en étant sûr de gagner.
Mais je suis pas d'accord.
Non, il va pas s'allier avec Bardella. Mais
déjà, quand tu regardes,
non, c'est pas les mêmes idées, sauf que tu as dans LR une frange quand même qui, pour certaines idées, à une interface avec RN, on est d'accord, à une interface. Tu as la droite qui sont plus éloignées, mais putain, qui s'entendent pour une fois. Et puis qui ne rejouent pas le coup de « quand j'arrive, je tronçonne, je vais supprimer 50% des fonctionnaires, parce que la prochaine étape, ça va être « je vais m'occuper de la classe moyenne ». Je veux dire, ça fait globalement 50 ans, ou allez, 40 ans que j'écoute un peu la politique et ça m'intéresse. 40 ans que j'entends les gens de droite à chaque élection nous dire
un peu plus âgé, non,
on va s'occuper des classes moyennes. Et 40 ans que c'est les classes moyennes qu'on tond systématiquement après l'élection. Donc ça, on lui
croit plus. Donc t'as pas été convaincu, Sandrine Pégan?
Non, moi je suis pas convaincue non plus du tout. Déjà, à chaque fois que j'assiste à ses discours, je trouve qu'il ne les incarne pas. Il a pas de charisme, pardonnez-moi, c'est mon humble avis. Mais là, il joue la carte du sérieux. Alors bon, c'est bien, la droite dure.
C'est quelqu'un de sérieux.
Oui, mais là, il parle d'ordre, il parle de justice, il parle de fierté française, tu vois. Donc ça peut parler à certains Français. Maintenant, moi, je me dis aujourd'hui...
Ça te parle pas.
Moi, ça me parle pas. Parce que, alors, il parle de l'immigration et déjà, ce terrain-là, sur l'immigration, il est déjà pris par le RN. Donc bon, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui de nouveau? Je me dis juste, il est peut-être pas capable en plus de créer un espèce d'élan, tu vois, pour est-ce qu'il va aller au-delà des militants de
l'élan? Est-ce qu'il va donner envie?
C'est ça. Moi, c'est pour ça que j'y crois pas, parce que je me dis que Retailleau...
Alors justement, moi je trouve qu'il joue sur le fait qu'effectivement, il est ce qu'il est. C'est quelqu'un de sérieux, même physiquement.
Austère.
Mais il joue ça. D'ailleurs, il dit, attendez, moi j'y vais par devoir. C'est un peu un curé, quoi. Qui va se sacrifier pour la France. Qui ne va pas faire des numéros de claquettes comme dit Charles, et qui dit voilà, moi je serai droit dans mes bottes. Il joue cette carte-là.
Il joue surtout la carte de la crédibilité.
Sur le plan stratégique, après Sarkozy, on a eu vraiment quand même l'opposé de Sarkozy qui était Hollande. Après Hollande, on a eu quelqu'un quand même de très différent d'Hollande qui était Macron. Peut-être qu'après Macron, les Français voudront quelqu'un de très différent de Macron.
Moins d'esbrouf.
Peut-être moins d'esbrouf et plus de travail sur le fond, puisque comme l'a dit assez justement le docteur Marty, ça fait des années qu'ils promettent tous un travail sur le fond qu'en fait ils ne font pas. Emmanuel Macron avait pour mandat de moderniser le pays.
Et il avait dit aussi qu'il supprimait des postes de fonctionnaires.
Et il y avait quand même un petit parfum libéral effectivement dans son discours. Et finalement,
est-ce que c'est pas restreint de partir uniquement sur l'immigration, l'ordre, c'est des demandes des Français. Les Français veulent plus de sécurité, plus d'ordre et moins d'immigrés dans tous les sondages. Mais quand tu es président, tu ne t'occupes pas que de ça. Il faut aussi avoir une vision d'ensemble et puis un peu emmener le pays, parce qu'il faut dire aussi voilà à quoi va ressembler le pays dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que nos enfants, à qui on promet quand même le pire, est-ce qu'ils peuvent avoir de l'espoir, nos enfants?
Non, mais il reste 14 mois de campagne, donc croyez-moi que de l'eau va couler sous les ponts d'ici là. Ensuite, moi je pense que c'est comme, si vous voulez, un moteur, il faut un réacteur. Donc le réacteur, je pense que c'est les thèmes fondamentaux et ceux sur lesquels effectivement les candidats peuvent être les plus clivants. Donc en l'occurrence, lui, c'est sécurité, immigration, fiscalité aussi. Fiscalité, réforme de l'État. Et puis après, le candidat peut enrichir son discours. Mais il faut déjà
le moteur.
Un réacteur. Non mais
Parce que tu parles du réacteur.
Je parle de son moteur à lui. Je parle de son moteur à lui. Le réacteur de son moteur, c'est sa radicalité programmatique sur certains thèmes. Il pourra peut-être élargir après, mais on voit bien en France que avant de redonner de l'espoir à la jeunesse et de redonner foi en l'avenir, il faut quand même faire en sorte qu'on arrête de se faire voler son bien tous les quatre matins par des racailles impunies. Il faut peut-être qu'on arrête de se faire agresser dans les transports publics à toute heure du jour et de la nuit. Il faut peut-être qu'on arrête de se faire tondre par l'État, comme ça a été dit il y a un instant, et qu'on remette un peu d'ordre dans les dépenses publiques, qu'on les réduise drastiquement. Donc tout ça, ça peut être une base de départ, je suis désolé, qui à mon avis peut parler
assez largement. Oui, mais après, il y a quand même un élément, moi, qui me gêne aussi, c'est le fait que, par rapport aux autres élections, à toutes celles qui sont passées jusque-là, on est en train de vivre, là, sur les 3-4 ans qui viennent, un changement de société, qu'on le veuille ou non. Avec l'intelligence artificielle, la robotique, etc., la société va changer. Elle va changer profondément. Mmh. Et je ne vois pas un seul candidat de droite, du gauche, du centre qui ait l'air de prendre ça à la hauteur que cela va être. C'est-à-dire, j'en ai aucun qui, dans son programme, alors il nous parle de sécurité, il nous parle, oui, il nous parle de chômage, il nous parle d'économie, etc., mais aucun ne nous parle des retombées. Par exemple, de l'intelligence artificielle, de ce que ça va changer dans nos vies.
Exemple.
Est-ce que ça va changer au niveau français?
Bah, donne un exemple.
Par exemple, au moment où l'on parle, tu as par exemple Musk, mais tu en as d'autres aussi, hein, qui te disent, ne faites plus médecine. Parce que dans 3 ans, on sort des robots qui seront en capacité de faire mieux que n'importe quel chirurgien.
Ça, tu sais,
c'est la quasi-totalité des interventions.
Ça, toi qui es médecin,
mais
Jérôme.
Je ne peux pas croire à ça.
Bah déjà, ton diagnostic,
la chirurgie améliorer la médecine, mais ça ne va pas remplacer
les médecins.
C'est comme pour nous les avocats, soi-disant.
Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un bouleversement sociétal aussi important que quand l'imprimerie est arrivée, quand le train est arrivé, etc., etc. On y est là, on y est, quasi. Donc je veux dire, si on ne regarde pas les choses et qu'on ne s'adapte pas à ça, et qu'on n'est pas capable de miser là-dessus, calculer ce que va être la société de demain et qu'on continue avec nos vieilles antiennes à dire oui le problème c'est la sécurité, oui le problème c'est telle chose,
tu peux faire
ça va nous passer sous le nez.
Non mais tu peux faire
mais parce qu'il faut intégrer ça.
Donne un exemple concret.
Par exemple sur la santé, je voudrais avoir des gens qui soient capables de planifier et pour planifier d'intégrer ces éléments là dans leur planification. C'est pas fait actuellement. Donc on va passer
alors,
à côté.
Non mais bon,
deux réactions 32-16
quoi, des gens formés à l'IA.
Oui.
Peut-être qu'on aura un candidat IA aussi, pourquoi pas en 2027.
Jérôme, déjà avoir un ami IA déjà.
Jérôme et Hicham sont avec nous au 32-16 pour réagir. On va donner la parole à Hicham. Bonjour. Je vous appelle de Hicham, vous êtes en voiture.
Non, pas du tout. J'étais avec les AirPods. J'ai enlevé les AirPods. Bonjour.
Ah, d'accord.
Les bonjour. Bonjour aux avocats, bonjour aux docteurs. Bonjour.
Hicham de Cergy dans le Val d'Oise. Alors, cette candidature Retailleau.
Ah, on est fatigué. Ça n'a pas commencé. On est à 18 mois.
Ah, vous êtes déjà fatigué.
Ah, Retailleau, il a 18 mois dans les pattes de macronisme avec que des échecs. L'Algérie, les OQTF, la sécurité. Je voudrais juste dire à monsieur Retailleau, moi j'avais écouté Consigny il y a 2 ou 3 émissions, il parlait à je sais plus qui de droite qui était dans votre plateau et qui disait
Philippe Juvin, l'excellent Philippe Juvin.
Exactement, et vous lui disiez Charles que en fait ce parti il est vieillissant, il est pas moderne. Et les LR, ils se sont dilués avec l'UDR, Ciotti et Bardella, et d'un autre côté, on a les autres qui se sont macronisés et au milieu, les LR, les pauvres LR, ils sont représentés par qui? Par Retailleau. Et le problème, il est là en fait. Le problème, c'est qu'on a besoin d'un coup de boost. Moi, je suis pas électeur LR ni je suis pas électeur.
Mais tant qu'on s'y dit.
Mais ce qui m'énerve en fait, c'est que j'ai l'impression qu'on recycle les vieux.
C'est pas moderne, c'est ce que vous dites.
C'est pas du tout moderne et que cette présidentielle elle va être gâchée par des dinosaures qui sont là depuis très longtemps et j'aimerais bien qu'on mette un peu plus de jeunesse dans ce parti et surtout Retailleau qui nous parle de sécurité, d'immigration. Je viens de regarder en attendant de passer le top 5 des préoccupations des Français. Alors en top 1, il y a la sécurité, mais après en top 2, inflation, top 3, taxes et impôts. Top 5, top 4, l'électricité. Et après, on a la santé. Mais à un moment donné, qui parle de tout ça?
Bon, Hicham, vous pourriez voter pour un candidat de droite moderne?
Mais en fait, moi, je me suis fait flouer en 2017. Je me suis fait flouer en 2017, j'ai voté Macron. Parce que j'y croyais à sa politique plus ou moins libérale. Il va remettre de l'ordre, il va enlever toutes les strates qu'on a dans les administrations, il va nous enlever tous les postes qui servent à rien. Finalement, on a eu le recasage de Bayrou, le recasage de Montchalin, hein, le recasage de Castaner, le recasage de Pierre, de Paul, de Jacques.
Et au final, Montchalin est participé au renouvellement.
Oui, mais celui qui avait promis un nouveau monde avec des... En fait, il est revenu aux anciennes méthodes. Et quand je vois Retailleau à la télé qui dit qu'il se présente et que, en fait, cette campagne présidentielle, je vous le dis tout de suite, les gars, elle va être pénible. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir les mêmes têtes, les mêmes discours.
Bah alors attendez, Retailleau, il n'a jamais... Alors, il n'est pas tout jeune, il a 65 ans, mais il n'a jamais été candidat à l'élection présidentielle. Alors que Marine Le Pen, si elle est candidate, c'est la quatrième fois. Mélenchon, ça sera, je crois, la quatrième fois aussi.
En fait, c'est l'usure. C'est l'usure, Olivier.
Oui, oui. Vous le trouvez déjà usé, en fait.
Mais c'est pas ça, c'est, voyez ses cernes. Ça fait 18 mois qu'il était au gouvernement.
C'est les LR qui sont usés, alors.
Et lui, il est usé, les LR sont usés, et la Macronie l'a usé en 18 mois, parce qu'en fait, il est resté dans un couloir, c'est un couloir de course, il y en a six, il y a six couloirs, et lui, il est resté dans immigration, sécurité, immigration, sécurité, immigration, sécurité. Ouais. Retailleau, change de disque, c'est pas avec ça que tu vas te faire élire. Il faut rassembler les Français sur d'autres sujets, il y a d'autres préoccupations, la santé.
D'accord, Hicham, on l'a compris, il y a d'autres préoccupations, voilà. Il peut pas être que sur la sécurité et l'immigration. Qu'en pense Jérôme, qui est avec nous également au 32-16 depuis Perpignan, c'est un fidèle Jérôme. Oui, il y a des Jérômes ce matin. Bonjour.
Bonjour à toute l'équipe et félicitations à tous.
Vous avez entendu ce que dit Hicham. Est-ce que Bruno Retailleau pourra rassembler, élargir ?
Ben, il ne pourra jamais rassembler pour la bonne et seule raison, c'est que les adhérents LR et de droite font un rassemblement avec une droite radicale. Ça y est, c'est terminé, c'est acté. On y va. L'histoire est en marche. Les LR, les adhérents LR, se sont tournés et qui ne veulent plus adhérer au LR, veulent une droite plus forte. Alors la question se pose, va-t-il avoir un rassemblement avec une droite plus radicale ? UDR, Marine Le Pen ou autre ?
Et peut-être qu'il veut récupérer simplement les électeurs de droite qui aujourd'hui vont voter Bardella ou Marine Le Pen, d'où son discours.
Surtout si Marine Le Pen ne peut pas être candidate.
Mais il les récupère...
Oui, ça serait peut-être ça,
je crois. Oui.
Il a trop ouvert, il est allé au gouvernement de Macron, il n'a pas démissionné.
Oui, mais enfin, il n'est pas macroniste, Retailleau. Personne ne pense que Retailleau c'est Macron. Ils sont quand même très différents.
Il l'avait quand même comparé à une bécasse.
Oui, il a claqué la porte du gouvernement. Ouais.
Dans un débat.
Il a claqué la porte.
Il a atteint l'accès à Bardella, peut-être.
Il est parti par la petite porte. La question, elle est aussi quel.
Attendez, écoutez, je crois que à Perpignan, il a beaucoup plu. Hein, ça
non, mais ce qui se passe, c'est que Retailleau a déjà des équipes très solides qui ont coupé la communication de notre auditeur.
J'espère que c'est pas un arbre qui est tombé sur Jérôme.
On rappelle que Retailleau a été ministre intérieur. Il a gardé quelques contacts.
Bon, merci Jérôme. En tout cas, on a bien compris. Vous n'y croyez pas au Retailleau qui élargit sa base.
Non.
Bon, on va voir maintenant. Il a 14 mois pour convaincre. Populaire. On a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules. Est-ce que Bruno Retailleau a ses chances pour 2027? Et vous dites non, quand même, très majoritairement.
Pas mal,
à quasiment 74%.
Oui, mais à 26%, vous passez le premier tour.
Hein. Ah oui, 26%, oui, largement même. Dans un instant, on parlait justement du vent qui a soufflé à Perpignan et ailleurs. Il a beaucoup plu aussi. La tempête Nils qui a fait une deuxième victime. Il y a eu deux morts quand même. C'est quand même une des grosses tempêtes de ces dernières années, avec des rafales de vent très impressionnantes. On a vu beaucoup de dégâts matériels. Il y a encore 450 000 foyers privés d'électricité. Et à chaque fois, on se dit, il faut qu'on change. Il faut qu'on construise différemment, etc. Et en fait, rien se passe. Parce que pourquoi ? Parce que nos politiques ne prennent pas l'ampleur des choses. Il va falloir agir. Alors, nos politiques doivent-ils se bouger pour éviter les dégâts causés par ces tempêtes ? On en parle dans un instant sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story avec Charles Consigny, avec Jérôme Marty, Sandrine Pégan matin. Et un petit coup de chapeau.
Ah oui.
Et un grand merci à ce boulanger pâtissier que tu nous as amené, Sandrine Pégan, parce que c'est le tien, je crois. Il est dans ton quartier à Paris, dans le 17e. Et il nous a amené des bonnes choses. Alors la régie se régale. On les entend plus en régie. Ils sont plongés dans les viennoiseries.
Non, mais moi,
Anaïs me parle la bouche pleine dans l'oreillette en ce moment.
Très désagréable. Mais on m'a toujours dit, moi, qu'il fallait que je flatte le petit bidon des hommes. Bon, aujourd'hui, je vois que je suis un petit peu bien lotis, qu'ils sont assez garnis. J'ai voulu vous entretenir,
Charles. Charles n'a pas pris.
J'essaie de reprendre le contrôle de la situation. Et donc, je n'ai pas goûté les viennoiseries.
Alors, ce pâtissier boulanger a la particularité de faire justement des produits avec un indice glycémique bas. Donc, ta silhouette ne sera pas modifiée ni impactée. Au contraire, tu peux te faire plaisir. Donc, dans le 17e, JEA, donner de la force à ce petit jeune qui a 10 ans, qui vient de démarrer. 27 ans.
78 avenue de Villiers.
particulier si vous êtes à Paris.
On voit qu'avocat, c'est un métier parce que les pâtisseries en question, tu sais, c'est des pains au chocolat king size, magnifiques.
Oui.
À l'évidence, tu en manges un. Tu prends 10 kilos d'un coup.
Mais pas du tout.
Et Sandrine Pégan nous explique que ma silhouette n'en serait pas modifiée.
C'est pas vrai parce que Jérôme, tout à l'heure, m'a confirmé qu'il est nécessaire de bien manger le matin et d'être plus léger à midi et le soir.
On le dira jamais assez, le régime, c'est une pyramide inversée. Grand repas le matin, repas moyen à midi, repas léger le soir.
Et pourquoi tout le monde fait l'inverse?
90% des Français, c'est l'inverse.
Petit déjeuner de roi, déjeuner de prince et dîner de pauvre, c'est ça.
Pourquoi on fait tous l'inverse?
Pourquoi on fait tous l'inverse? Parce que on embraye le matin rapidement, que les gens embrayent avec juste un café et c'est tout, un café et une clope. Enlevez-moi la clope.
Bon, il y a aussi
enlevez-moi le sucre dans le café.
Du jeûne intermittent aussi, qui soi-disant fonctionne bien.
Et puis on n'a pas le temps, quoi. On mange sur le pouce et le soir on se rattrape. Et c'est un tort.
Bon, en tout cas, bravo à ce boulanger pâtissier qui démarre son activité. On lui souhaite bien sûr beaucoup de réussite. On va continuer d'évoquer les sujets d'actualité. La tempête Nils, elle s'éloigne de la France, mais elle a fait vraiment de gros dégâts. Elle a même fait une deuxième victime en France, dans le Tarn-et-Garonne.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous en allerons.
Au total, 21 départements restent en vigilance crue, principalement donc dans ce vaste quart sud-ouest de la France. 4 départements dans les Alpes sont en alerte orange. Prudence si vous allez skier parce qu'il a beaucoup neigé, il y a un risque très fort d'avalanche. Environ 450 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Une deuxième victime, c'est le porte-parole du gouvernement qui l'a annoncé ce matin. Et cette question, est-ce qu'on est prêt en fait à affronter ces tempêtes à répétition hivernales qui sont de plus en plus violentes? Là, il a vraiment soufflé très fort, jusqu'à 162 km/h sur certains départements. Je voudrais tout de suite, mes chers Rangel, qu'on donne la parole à un architecte qui travaille justement sur ces risques. C'est Éric Daniel Lacombe. Bonjour.
Bonjour.
Hier, vous étiez avec moi sur le et Alain Marchal, qu'on salue d'ailleurs. Alain est parti en vacances. Vous étiez avec moi sur le plateau de BFM TV et vous étiez en train de dire les politiques parfois sont un frein justement à l'adaptation de nos structures, de nos bâtiments, de nos architectures à ces tempêtes, à ce vent violent. Vous nous avez dit ça, et puis dans la foulée, on a eu Louis Alliot, le maire de Perpignan. À Perpignan, il y a des centaines d'arbres qui sont tombés et qui ont écrasé des voitures, qui ont abîmé beaucoup de choses. Et on demandait à Louis Alliot, bon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il dit, oh ben, je vais replanter l'arbre exactement au même endroit. Alors, ça vous avait fait sourire, nous aussi.
Oui.
Bon, bah alors.
Mais tu limites au mieux d'habitude.
Alors, je peux le faire.
Tu peux le faire.
Et oui, alors.
Voilà, fais tout plaisir.
Et oui, je vais replanter l'arbre au même endroit, et puis s'il tombe, mais c'est comme ça, il y a du vent. Bon, et vous dites, vous, Éric Daniel Lacombe, qu'on peut faire différemment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
La première chose, c'est que je pense que ce maire-là, comme le maire de Tignes qui a fermé toute sa station, n'a pas de conseil. En fait, pour le dire gentiment, on est à un mois des élections et personne n'aide les maires. Et ils sont à portée de baffe comme à portée de tempête, ça c'est évident. Vous avez raison, replanter des arbres à l'identique, c'est complètement idiot. Ça ne veut pas dire que Louis Alliot soit idiot, mais c'est complètement idiot parce que la prochaine tempête, les arbres vont tomber au même endroit et ça fera les mêmes dégâts et à un moment, on ne pourra plus payer. Moi, je pense qu'il faut profiter de l'énergie de la tempête pour nous donner une énergie de transformation. Vous voyez, l'identique.
Mais concrètement, dans une ville, comment vous faites dans une ville?
Olivier, vous êtes à Perpignan, il y a bien des rues qui sont dans le sens du courant et on peut mesurer ça. Il y a des rues où le courant du vent va passer à 160 km/h. Et là, vous dites, mince, attention, c'est peut-être pas là qu'il faut mettre tous les arbres. Puis vous avoir des rues protégées par une église, transversales, à un autre endroit, derrière un relief, où là, vous vous dites, on met tout le paquet des arbres. C'est-à-dire que, un, sur l'essence de l'arbre, il faut peut-être réfléchir. Il y a peut-être des arbres qui vont pas passer la canicule. C'est-à-dire que, n'oublions pas, ce que dit Louis Alliot, ce qui est vraiment dangereux, c'est un peu de faire comme si il y avait un déni climatique en disant qu'on remet à l'identique. Se dire, allez, on a tout replanté.
Ou une fatalité, en disant, de toute façon, il y a du vent et on peut rien faire.
Ni connu, mais ça, c'est pas un bon signal pour la population, ni pour nos assurances, ni pour notre porte-monnaie. Donc, ça veut dire que, à l'identique, c'est vraiment absurde. Mais se faire autrement, c'est vraiment compliqué parce que tout le monde préfère l'identique à autrement. Vous le voyez bien, le changement, c'est compliqué. Mais sens du vent, hauteur des arbres, taille des racines, qualité de saison, de se dire que le même arbre, qu'est-ce qu'il va vous faire en plein été? Parce qu'on va faire la même émission, Olivier, quand ça sera les canicules. Mmh. Et puis dans la même région, il y a eu les incendies.
Bah d'ailleurs, à Perpignan, il a fait très sec pendant plusieurs étés.
Deux ans.
Et là, il a trop plu. D'ailleurs, il y a un problème, parce que l'eau ne s'écoule pas.
Olivier, je vous l'ai dit hier, mais je veux dire, l'arbre, il a une hauteur, et puis il va s'écrouler. Mais pardon, si vous êtes sous un arbre, eh ben vous vous éloignez quand il tombe. On peut quand même prendre des mesures de prudence avec l'architecture. C'est ce que j'appelle mettre de la distance. Et c'est pour ça que le maire de Tignes, vous voyez, là, on vient de faire le vent, mais le maire de
Tignes... Alors, Tignes, il faut expliquer ce qui s'est passé. C'est rarissime. Il a carrément confiné la station de 23h à 6h du matin parce qu'il y avait de fortes chutes de neige et il préférait que les gens restent chez eux plutôt que les retrouver dehors, sortant des restaurants.
Ça va, c'est la nuit.
On voit bien que c'est ce qui s'est passé avec le Covid. C'est-à-dire que c'est plus simple de confiner, quoi.
Mais c'est une autre position qui est nationale, je dirais. Oui, vous entendez bien. J'engueule ni le maire de Perpignan, ni le maire de Tignes. Mais ils ont chacun une attitude qui, à mon avis, dévastatrice plus que les tempêtes. Perpignan, il dit ni vu ni connu. Et le maire de Tignes, il dit je ferme. Mais c'est pareil, quand on a eu toutes les canicules cet été, fermer, ça s'appelle étancher ou la climatisation. C'est pas un bon chemin pour nos sociétés. Alors, évidemment, quand c'est à 5 sur 5 les avalanches, on prévient et on ferme. Mais moi, je préférerais qu'on fasse, parce que le premier truc, c'est l'architecture. La deuxième chose, c'est la culture. Moi, quand j'ai fait les chasseurs alpins et qu'ils faisaient ce temps-là, on m'a sorti dehors, j'avais pas vraiment envie, et on m'a appris les avalanches. Mais regardez la télé hier, même chez vous, il y avait quand même des marcheurs, des skieurs qui disaient « Ah bon, là ça peut tomber, ça peut descendre jusque-là, pourquoi on n'apprendrait pas ça ?» À un moment, j'ai été conseiller des campings face au trait de côte, et j'ai essayé de remplacer les soirées élections Miss Mister ou les soirées mousse par les soirées inondations.
Ah oui, j'imagine que ça devait moins bien marcher.
C'est moins fun, oui.
C'est moins fun.
Eh ben, vous voyez, si d'un côté, on met les arbres au bon endroit, dans le bon sens du courant, du vent, qu'on met les habitants à une nouvelle culture du risque que j'appelle plutôt la prudence, pardon de le dire, mais un guide de haute montagne s'y connaît mieux en montagne qu'un Parisien qui arrive tout excité pour faire sa piste. Et en plus, on va engager de la colère. Alors. Celui qui a payé son forfait très cher, il va se mettre à détester la neige. Moi, ce que je veux, c'est qu'on aime la neige comme on aime le vent, comme on aime l'eau pendant les inondations.
Oui, d'ailleurs, il faut continuer à vivre, mais s'adapter. Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme ? On n'a pas encore cette culture du risque, la prévention.
On ne peut pas être contre. Après, ceci étant, il y a quand même une responsabilité individuelle qui est extrêmement importante. Nous, ça a beaucoup soufflé chez nous, puisque je suis, moi, à 7 km du Tarn-et-Garonne. On était sur le couloir où ça a le plus soufflé, mais il a surtout énormément plu. Moi, ça fait 30, ça fait.
Et là où, d'ailleurs, où il y a la
deuxième région, j'ai jamais vu pleuvoir autant. Ça fait quasi un mois et demi qu'il pleut sans discontinuer, quoi. On n'a jamais vu ça dans la région toulousaine, quoi. Il pleut. Et donc, le sol est très meuble. Et donc, les arbres tombent. Donc, il y a quand même une responsabilité qui est celle de, écouter les conseils de sécurité que l'on donne et pas faire de conneries. Pas aller sortir dans les bois ou aller prendre la route quand il y a des routes entourées de forêts, quand ça va souffler, etc. C'est tombé partout. Moi, j'ai des salariés de l'établissement, hier matin, qui ont eu des difficultés pour venir parce qu'il a fallu qu'ils fassent 4, 5, 6 routes différentes pour arriver à passer parce que toutes les routes étaient bouchées par les arbres qui sont tombés. Donc il y a eu des dégâts très importants. Je suis malheureusement pas étonné qu'il y ait eu deux morts en Tarn-et-Garonne. Mais je crois qu'il faut que l'on arrive maintenant à se dire que les alertes météo qui sont lancées, elles sont maintenant suffisamment précises pour que l'ensemble des personnes les prennent au sérieux.
Oui, mais ça c'est la réaction le fait que l'on dise à chaque fois
l'État doit faire. Non, c'est nous qui devons faire aussi. C'est nous qui devons penser quand on construit une maison de pas mettre un arbre juste à côté, de s'adapter à ces choses-là qui vont changer.
Oui, mais nous on n'y connaît rien, nous, Jérôme. On n'y connaît rien, même si on fait appel à des spécialistes.
Donc, on n'est pas non plus complètement con.
Tu nous demandes à nous de nous adapter. Non, mais en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que, et ce que je pense, c'est que, je veux dire, c'est plus une surprise, ça devient un peu la norme, tous ces épisodes exceptionnels. Oui. On voit bien que le climat
c'est plus
change.
Exceptionnel.
Oui. Et que les épisodes extrêmes vont se multiplier et que l'État continue de faire comme si c'était exceptionnel. Donc, on n'anticipe pas ni les infrastructures, ni l'urbanisme. Donc, c'est plutôt à l'État de s'adapter plutôt qu'à nous de faire attention, de ne pas se mettre sous un arbre ou de construire notre maison
en
dehors.
On peut faire les deux.
Ah, il faut aller deux. Non, mais attends, l'État peut pas tout faire.
Mais gouverner, c'est pas juste réparer. Hein. Il faut aussi anticiper et prévenir.
Oui, et ça coûte moins cher d'ailleurs.
Non, mais il est vrai que, par exemple, si vous avez des arbres dans votre jardin, en bord d'un mur ou d'une route, il vaut mieux des arbres assez bas, avec pas trop de branches qui dépassent, pour effectivement éviter qu'en cas de coup de vent, ça tombe sur les gens qui passent sur la voie publique. Et ça, c'est quand même de la responsabilité de chacun. Et puis ensuite, moi, il me semble qu'il y a une petite amnésie, en fait, désormais. Regardez dans les différentes régions comment sont construits les villages. Très souvent, les habitations, les villages sont construits en fonction de la météo. Mmh. Pour parler de ce que je connais, dans le Jura, les villages sont assez agglomérés, les maisons très collées les unes aux autres, de manière à ne pas offrir trop de prise à la météo. De même que pendant très longtemps, en bord de mer, notamment sur la côte ouest, en Bretagne et tout ça, on mettait plutôt les maisons loin du bord de mer et plutôt tournées vers les terres pour éviter de se prendre toute tout l'océan, tout le vent, la mer, tout ce qui crée de l'érosion, etc. Voilà. Aujourd'hui, les gens, ils sont les gens sont dans des régions froides.
Oui, il y a un règlement qui vous interdit.
Dans des régions froides, ils se construisent des grandes maisons avec des grandes baies vitrées qui évidemment font entrer tout le froid et après ils viennent protester contre le prix de l'électricité.
Mais t'as un beau panorama.
Quand tu fais ta cuisine,
moi quand je vois toutes ces maisons avec baies vitrées dans le Jura, j'avoue que je suis accablé parce que c'est pas du tout adapté au climat.
Facture d'électricité.
Et de la même façon, ils construisent des maisons avec vue sur la mer, tout près de la mer, puis là, il y a des éboulements, il y a la mer qui abîme leur maison. Ben non, il faut... Pendant très longtemps, on adaptait...
On a perdu un peu de bon sens.
Aller dans le sud, en Italie, etc., vous avez des maisons avec des très gros murs, des fenêtres assez étroites. Pourquoi ? Parce que quand il fait très chaud, c'est mieux d'avoir des gros murs et des petites fenêtres pour éviter qu'il fasse trop chaud à l'intérieur. Mais ça, c'est marrant, il y a une espèce d'amnésie maintenant, qu'on pourrait appeler aussi une espèce d'acculturation, où on ne sait plus rien, finalement. Voilà. Bon, après, l'époque actuelle, on ne sait plus rien.
Charles, il faut quand même pas oublier que les permis de construire, ils sont délivrés, donc tu en fais la demande, et si après la mairie te délivre pas le permis de conduire parce que tu ne respectes pas le règlement du littoral, t'as beau vouloir te mettre face à la mer est véritablement proche de la plage.
Oui, enfin, on l'a construit en zone inondable, partout, sans trop se soucier, parce qu'il fallait construire. Puis souvent, c'est un peu moins cher. Et maintenant, on se dit, mince, on l'a trop construit en zone inondable.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Il y a des règlements, et donc après, c'est à eux de faire attention.
Alors, on a parlé de Perpignan et de Louis Alliot. Ça fait réagir les habitants de Perpignan. Max est avec toi au 32-16. Bonjour, Max.
Bonjour.
C'est vrai que ça a soufflé fort chez vous.
Oui, très fort. Ben nous, on est quand même habitués au fort vent, mais là, c'était impressionnant. On n'avait jamais vu ça. Là, c'était vraiment la folie. Et là, ce matin, on compte un peu le nombre d'arbres qu'on voit coucher sur la route, parce que quand vous passez bord de route, c'est impressionnant à voir.
Et je crois qu'il y a plus de 300 arbres qui ont été arrachés. Hein.
C'est ça, ouais. Ce matin, j'ai discuté avec un ami qui est à la PM à Perpignan. Il y a plus de 300 arbres qui ont été arrachés, sans compter les coupures d'électricité, les dégâts sur les voitures. c'était compliqué.
Oui, mais vous voyez, d'accord, mais alors maintenant...
Mais là, les dégâts sur les voitures...
Maintenant que c'est arrivé, est-ce qu'on refait la même chose? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on remet les arbres exactement au même endroit, sachant que ces tempêtes, tous les spécialistes nous disent, vont se multiplier, seront de plus en plus fortes. Donc ça va revenir, peut-être pas les prochaines, mais en 2 ans. Et là, de nouveau, les arbres vont tomber. On a oublié que c'était déjà tombé il y a 2 ans, avec des dégâts, des voitures abîmées. Ou est-ce qu'on fait différemment? On va faire venir un spécialiste qui va nous dire, cet arbre, on le met pas là parce qu'il n'est pas dans
le
sens du vent.
Les dégâts sur les voitures dans une ville, je suis désolé, mais quand ça fait 3 jours qu'on t'annonce que t'as une tempête qui arrive, que la ville est en rouge, etc. Tu déplaces ta bagnole, tu la mets pas.
Oui, mais pardon, mais on veut faire des jungles urbaines dans nos villes, il faut savoir.
Je sais bien, mais
il faut bien aussi garer les voitures.
Vous voyez, par exemple, rien que moi, je suis sur un petit village qui est agencé un peu. Il y a une grande allée et où il y a tous les lotissements et tout qui sont autour. Mais forcément, le vent s'engouffre, tout a été arraché. Et vous voyez, il y avait un grand pin devant notre mairie. Il est tombé sur la route, ça a bloqué toute la route du village. Mais si vous le replantez au même endroit et qu'il retombe dans 2 ans, c'est un peu débile. Donc voilà. Il faut trouver une autre solution, soit réduire la taille des arbres, soit mieux agencer pour qu'il n'y ait pas un couloir d'air, parce que si vous êtes dans le couloir...
Parce que ça veut dire que là, il y aura un coût, on n'a pas encore la facture de cette tempête, mais derrière, les assurances vont augmenter, vont répercuter.
Comme à chaque fois.
Après, il y a la conjonction de fait, il y a énormément de pluie, plus la tempête. Ouais, le sol, les meubles, les arbres ne tiennent plus. Quoi.
Et vous avez tous les poteaux sur les stades de rugby aussi, qui tout s'est arraché.
C'est vrai.
On ne sait toujours pas si le match de ce week-end, d'ailleurs, il est maintenu ou pas, nous, à Perpignan, donc...
Bon courage à Perpignan.
On peut vous prêter des poteaux peut-être, Toulouse.
Ils
ont tenu à Toulouse.
Ils ont tenu. Ils sont grands. Hein.
Plus merci Max, merci d'avoir appelé au 32-16. On a posé la question sur le compte X des grandes gueules, tempête, infrastructure inadaptée. L'État est-il en cause? C'est ce que disait Maître Pégan. Vous dites oui à 64,1%. Dans un instant, on accueille Anaïs Innocence pour le On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules, Sandrine Pégan est avec nous, Charles Consigny, Jérôme Marty, et on va jouer vendredi 13. Vous allez gagner jusqu'à 30 000 euros grâce à RMC, la roue RMC qui est de retour. Alors c'est le moment de jouer, vous avez 10 minutes pour envoyer 13, alors le mot 13 ou 13 le chiffre, au 7-32-16, 13 au 7-32-16, 10 minutes pour jouer. Et ensuite, on va se retrouver, si vous êtes sélectionné, à 11h20 pour tourner la roue. Et à 11h20, vous aurez 1000 euros quoi qu'il arrive, mais ces 1000 euros pourraient être multipliés en fonction des chiffres que vous allez avoir sur la roue. Donc on peut multiplier par 2, par 3, par 5, par 13. Il y a même une case mystère. Et on peut gagner jusqu'à 30 000 euros. Il y a de l'argent à se faire ce matin sur RMC. Restez bien à l'écoute.
J'ai rien compris, moi.
Pourtant, c'était très simple.
Il a rien compris.
Allez, le OSEF.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Quand je pense que ce type a fait 10 ans d'études et il comprend rien. C'est inquiétant,
ouais,
hein.
10 ans d'études. Ouais.
Tu sais, c'est quelqu'un qui peut te sauver la vie, quand même.
Marty, c'est Jean-Claude.
J'aurais mal entendu.
Tu sais que la confiance n'excluant pas le contrôle, je voudrais bien vérifier tes diplômes, quand même. On ne sait jamais. Tu vois, je
En tout cas, non, mais je pense qu'il n'est pas médecin, c'est Jean-Claude Roman.
C'est Jean-Claude Roman.
Sa vraie passion, c'est opticien.
Allez, on s'en fout pas. Anaïs Innocence, bonjour.
Bonjour les GG, bonjour à tous. En 2025, plus de la moitié des actes anti-religieux étaient antisémites, les GG. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jérôme?
Non, on s'en fout pas, bien sûr.
Charles.
On s'en fout pas.
Sandrine.
Absolument pas.
Chiffre du ministère de l'Intérieur publié hier. Dans le détail, les actes antisémites ont quand même diminué de 16% en un an. Mais le niveau reste historiquement élevé avec 1320 faits recensés. Quant aux actes anti-musulmans, ils ont bondi de 88% avec 326 faits relevés également. Charles, pourquoi tu t'en fous
et
pas?
Et simplement, je précise que ce sont les 20 ans
d'Ilan Halimi.
On commémore les 20 ans de la mort d'Ilan Halimi. C'est pour ça qu'il y a eu, aussi ce sondage, qui montre, sondage IFOP, qui montre quand même qu'il y a un tiers des Français qui sont encore dans des préjugés et qui pensent, par exemple, que les Juifs ont beaucoup d'argent. Donc, on voit que le travail reste à faire.
Ouais. Bah, on s'en fout pas parce que, effectivement, l'antisémitisme persiste. Il est notamment très présent. Très relancé par l'affaire Epstein qui nourrit toutes les thèses les plus antisémites sur les réseaux sociaux. C'est une espèce de cancer jamais soigné.
Sandrine?
Comme disait Charles, les actes antisémites continuent et sont alimentés surtout par certains partis politiques.
Ouais.
On va quand même pas se voiler la face. Donc il y a une responsabilité de certains partis et on doit continuer de sanctionner, dénoncer parce que c'est
certains partis mettons les pieds dans le plat parce que dans la même étude IFOP, 54% des militants LFI contestent le fait qu'Israël existe. Donc si tu veux, voilà.
Il y a aussi un Français sur quatre qui pense que les Juifs sont plus riches que la moyenne.
C'est ce que je disais, ouais. Donc il y a toujours ce préjugé que le Juif a de l'argent, quoi.
Non, mais c'est un cancer et c'est un cancer métastatique, quoi, parce que ça touche d'autres populations que celles qu'elle touchait auparavant, de par l'instrumentalisation que fait justement LFI pour ne pas le nommer, quoi. Je veux dire, quand on construit sa politique sur une part d'antisémitisme, je dis pas que les membres de LFI sont antisémites, mais il y a de la part de la direction de ce parti une exploitation politique qui peut amener à l'antisémitisme. Et puis parallèlement, tu l'as dit, il y a une explosion aussi des actes anti-musulmans. Et donc dans ce pays, le racisme et l'antisémitisme, c'est devenu deux piliers de la vie de ce pays. Et on est dans un moment qui est extrêmement dangereux dans notre pays, quoi. Il va falloir ramener un petit peu d'humanisme dans tout ça. Et j'ai pas l'impression que les politiques le fassent.
Anaïs.
Stéphane Bern, les GG, dans la nouvelle saison de Danse avec les stars sur TF1. La saison a commencé la semaine dernière. L'occasion pour l'animateur de répondre aux questions de Paris Match. Et à la question Auriez-vous pu danser dans l'émission avec un partenaire homme ? Eh bien, Stéphane Bern répond que ça aurait été inconcevable pour lui. Est-ce qu'on s'en fout ou pas ?
Il a même dit ridicule. Hein.
Oui, ridicule. On attends, je développe après. Ouais. Sandrine,
on s'en fout pas ? On ne touche pas à Danse avec les Stars.
Moi, je m'en fous.
Jérôme.
J'aurais tendance à dire que je m'en fous aussi.
Bon, mais t'as le droit,
Il n'y a que Sandrine qui regarde.
Écoutez ce qu'il dit, écoutez ce que dit Stéphane Bern. Ça aurait été un message trompeur car je n'ai jamais dansé avec un homme. On ne danse jamais ensemble avec mon compagnon, alors ce serait ridicule et même un peu caricatural. Je ne suis porte-drapeau de rien, ce n'est pas dans ma nature. Sandrine.
C'est ridicule, deux hommes qui dansent ?
Bilal Hassani l'avait fait.
Oui, il l'avait fait. Bon, après, c'était son choix. Ouais. Mais... toi, tu adores Star Academy, moi, c'est Danse avec les Stars. Le vendredi soir, alors maintenant, ça va être le samedi soir, on peut me payer 1 million d'euros que je ne sors pas. Je reste chez moi à regarder. Ah, je suis littéralement fan. Je suis toutes les saisons de A à Z. Hein. C'est-à-dire que je rate même des événements de mes amis exprès pour pouvoir regarder. Moi, je trouve que Bern, il a raison. Il n'est pas là pour représenter la communauté gay. C'est pas son rôle. Il a le droit de dire je ne veux pas danser avec un homme. Je trouve ça ridicule. Et d'ailleurs, il le justifie en disant que même avec son compagnon, il ne danse pas. Donc pourquoi est-ce qu'il danserait avec un homme? Bilal Hassani l'a fait, c'était son choix, mais il n'est pas là pour représenter la communauté.
Oui, mais il dit c'est que c'est ridicule, donc il porte un jugement. Pourquoi ça serait ridicule, deux mais hommes qui dansent?
Il a porté ce jugement-là par rapport au fait qu'il ne dansait pas.
Plus facilement,
il ne dansait pas avec
deux
son compagnon
qui
déjà.
Dansent. Dans les soirées, tu vois souvent les deux femmes danser.
Non, je vois pas souvent deux femmes qui dansent. Non,
ça peut pas sortir Olivier,
je crois. Et tu vois, pardon, je crois que j'ai pas souvent vu des deux hommes danser ensemble. Vas-y.
Et ben
c'est vrai. Je propose que Jérôme invite Charles. Jérôme,
Charles, danse avec les stars.
Charles danse sûrement très bien. Moi,
vous
c'est
pourriez
pas
faire
temps,
danser avec les stars, tiens, Jérôme Marty.
Non, moi, je pourrais pas.
Mais pourquoi?
Non,
c'est pas ton truc, la danse.
Non, la danse, ça a jamais été trop mon truc, non.
Tu danses pas rock?
Pas vraiment, non.
C'était plutôt du genre le mec qui passait les disques, quoi.
Voilà, c'est ça, ouais.
Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, si un jour on venait à me proposer, mais nous, on peut pas en tant qu'avocat. Avec notre déontologie, on n'a pas le droit, ça serait indigne à la profession.
Toi, t'aimerais bien faire danser avec les stars, Sandrine.
Mais on ne peut pas, ou alors il faudrait que je m'omette du tableau, parce qu'on serait indigne à la profession. Ah si, je t'assure, il y a même un confrère qui faisait de la mandoline le soir de la fête de la musique, et il s'est fait suspendre.
Charles,
si, c'est l'indignité.
Je n'ai pas la même appréciation de la déontologie que ma consoeur Sandrine Pégan. Je pense qu'il y a quand même une liberté.
Tu verras
qui,
l'ordre.
Qui domine sur ce genre de. Moi, je ne le ferai pas, non, parce que même dans son sol, je me sentirais ridicule. Vous voyez, c'est encore pire que Bern. c'est même pas danser avec un homme, c'est déjà danser seul. Où j'aurais
du mal. Tout s'améliorer, Charles.
Non, la question est juste de savoir si on ferait bondir l'audimat ou si, au contraire, ça s'effondrerait.
C'est sûr.
C'est ça,
moi, je trouve que ça serait bien les grandes gueules qui pourraient faire les danses avec les stars. Ouais.
Oh, bah tiens, t'as lancé.
Moi, j'enverrais Didier Giraud.
Ouais.
Si on devait choisir l'un d'entre nous.
Non, Poncet avec ses baskets.
Ah, Bruno Poncet avec ses baskets, c'est pas mal. Le problème, c'est que lui, il ne danse que sur du hard rock. Donc, je sais pas si c'est sur la programmation de TF1.
Il
ne
fait que ça.
Je vous rappelle que Moscato l'a fait, Vincent Moscato.
Mais oui, c'est vrai.
Bon, il avait fait un tango, je me souviens bien.
Je crois qu'il n'est pas allé très loin, non?
Non, il n'a pas été très loin, c'est étonnant d'ailleurs.
Oui, parce qu'il avait vraiment du potentiel.
Il y a Philippe Lelouch cette saison-là.
Oui, je crois qu'il ne va pas aller très loin non plus, Philippe Lelouch.
On va voir, attention. C'était la semaine dernière, la semaine d'avant, sa première danse. Je m'attendais à pire. Donc, j'y crois.
Bon, danse avec les stars, avec deux hommes, c'est ridicule, dit Stéphane Bern. Puisqu'on parle des grandes gueules, les grandes gueules, elles vont bouger la semaine prochaine.
Ouais.
On repart sur les routes de France à l'occasion des élections municipales et GG se délocalise pour venir à votre rencontre. Alors, notez bien ces dates. Nous serons à Marseille, ça sera jeudi prochain, le 19, au Palais de la Bourse, 9 rue de la Canebière. Ensuite, la semaine d'après, nous serons à Lyon, le 24 février, au Palais de la Bourse également, 20 rue de la Bourse. Ça tombe bien, c'est facile à trouver. Et puis, nous terminerons à Nice, début mars,
le 2 mars.
Alors, vous pouvez bien sûr participer à ces émissions, venir nous voir, mais les places sont limitées, donc il faut absolument vous inscrire en envoyant un mail à public@rmc.fr. public@rmc.fr. Et donc, on se donne rendez-vous à Marseille jeudi prochain.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.